La science et nous. Une émission proposée par Sylvie Vauclair.
Les enfants du XXIe siècle sont conscients du fait qu'ils vivent sur une planète, la Terre, en suspension dans un espace immense. Ils savent qu'il y a des êtres humains qui vont dans l'espace à bord de satellites, de stations spatiales. Il y en a qui sont allés sur la Lune. On y retournera bientôt. On ira peut-être aussi sur Mars. Tout le monde connaît le nom de Thomas Pesquet, qui a fait un long séjour dans la Station spatiale internationale. Et beaucoup de gens connaissent aussi le nom de Sophie Adenau, qui est entrée l'an dernier dans la nouvelle promotion des astronautes de l'Agence spatiale européenne. Mais une mission spatiale, ce n'est pas seulement le fait des astronautes. Une mission spatiale, c'est tout un environnement, avec des équipes scientifiques qui travaillent en permanence, avant, pendant et après la mission. Et parmi les scientifiques qui accompagnent la mission, il y a ceux qui suivent de près l'évolution de la santé physique des astronautes et de leur performance cérébrale dans les conditions spatiales. J'ai avec moi aujourd'hui Laure Boyer, qui est ingénieure au MEDES, l'Institut de médecine et de physiologie spatiale à Toulouse. Elle a été responsable d'opérations spatiales au CADMOS, qui est, écoutez bien, le Centre d'aide au développement des activités en micro-pesanteur et des opérations spatiales. Elle est responsable de l'axe santé et performance des astronautes sur les futures bases lunaires et martiennes pour le projet SpaceShip du CNES, coordonnée par l'Agence spatiale européenne. Bonjour Laure.
Bonjour Sylvie, merci de me recevoir.
Laure est ingénieure de l'ISAE, l'Institut de l'aéronautique et de l'espace à Toulouse. Elle a fait un master en aéronautique et espace à l'Université de Sherbrooke au Canada. Et elle a ensuite effectué un travail de doctorat en ingénierie biomédicale à l'École polytechnique de Montréal. Elle a donc une double formation d'ingénieure de l'aéronautique et de l'espace et de médecine spatiale. Et elle a reçu de nombreux prix pour ses travaux et actions. Laure, je crois que nous aurons besoin de deux émissions pour parler de tout ça en détail. Peux-tu déjà nous expliquer comment se déroule l'accompagnement des astronautes pour ce qui concerne leur santé ?
Oui, alors, d'un point de vue de la santé, les astronautes, déjà, avant même de commencer, ils vivent une sélection drastique au niveau de leurs critères de santé à la fois physiologique et psychologique pour la sélection. Donc sur la dernière campagne de recrutement de l'ESA, on a eu plus de 22 000 candidatures de personnes qui auraient aimé être astronautes. Voilà, mais merci, on peut sûrement dire merci à notre ambassadeur Thomas Pesquet qui a rendu le métier d'astronaute visiblement très attrayant.
Et combien sont retenus à
Et alors seulement 17. Voilà, donc la sélection est drastique. Après, il y a beaucoup d'examens médicaux. Il faut être en santé, avoir une santé parfaite. Par contre, pas forcément besoin d'être un athlète de haut niveau pour devenir astronaute, comme on peut l'imaginer. Une fois que les astronautes sont sélectionnés, ils ont un suivi durant toute leur carrière d'astronaute, suivi de leur santé. L'idée, c'est de pouvoir anticiper les problèmes qui pourraient subvenir soit avant une mission, soit après une mission, parce qu'il y a quand même pas mal d'impact sur la santé dans le fait, du fait d'être astronaute.
Quelles sont les raisons de la microgravité, les radiations ?
Exactement. Entre autres, la microgravité qui a un impact sur en fait tous les systèmes du corps humain, parce que le corps humain, il est très bien fait et il va s'adapter à son environnement. Donc quand on met le corps humain de l'astronaute dans l'espace, le fait qu'on enlève cette gravité va générer une adaptation de tous les systèmes. Donc par exemple, l'os va comprendre, va dire « Bon, bah, finalement, il n'y a pas besoin d'avoir une structure osseuse aussi dense dans cet espace qui est sans contrainte, tout est fluide. » Donc, dès les premiers jours de vol de l'astronaute, on commence à observer une dégradation osseuse. Donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouve sur Terre, une maladie qui s'appelle l'ostéoporose, de perdre de la densité osseuse. C'est la même chose pour les muscles, par exemple, où il est très facile de se mouvoir dans l'espace, il n'y a plus besoin de faire tous ces efforts, surtout sur les muscles porteurs du dos, sur les muscles des jambes. Et donc du coup, on a une atrophie musculaire qui s'installe. On a ensuite des impacts sur le cœur, le système cardiovasculaire, sur des troubles métaboliques, on a des modifications oculaires, Enfin bref, ça, la liste peut être très très longue.
On n'a plus le même rythme jour-nuit aussi, ça doit jouer beaucoup ça.
Voilà, alors ça, c'est une autre problématique qui n'a rien à voir avec la microgravité en tant que telle, mais qui est due au fait que les astronautes qui vivent dans cette station spatiale qui fait le tour de la Terre en 90 minutes, faut imaginer, ça veut dire tous les 90 minutes, on a un lever de soleil. Alors ça pourrait paraître sympa, mais c'est pas ce qui arrive pour le corps humain qui est calé sur ce qu'on appelle des rythmes circadiens, qui sont propres au rythme du soleil. Et donc, ça a des impacts sur la santé mentale, sur la qualité du sommeil, sur le stress, etc. Donc tout ça, c'est des choses qui sont étudiées par les scientifiques de près. Voilà, on a aussi le fait d'être dans cette... l'ISS, c'est pas si grand que ça. Et les astronautes vivent confinés et isolés pendant environ 6 mois sur les missions standards. Donc ça, on a tous un peu touché du doigt avec le Covid, l'impact d'un confinement... sur la santé mentale, même la santé physique.
Et pour le sommeil, moi, quand je vois comment ils dorment, les astronautes, je me dis que ça doit être vraiment difficile. Enfin, il y a la microgravité, mais il y a justement il y a le fait qu'ils ne sont, ben, sont pas dans un lit, quoi.
Exactement, c'est vrai que... les astronautes, ils ont une petite chambre personnelle dans la station. Ça ressemble un peu à une cabine téléphonique, c'est pas très grand, mais c'est leur espace personnel, et ils ont... pour dormir, un sac de couchage qui est accroché au mur. Donc, effectivement, le confort n'est pas forcément au rendez-vous. On n'a pas le poids de la couette, etc., qui, en fait, sont des sensations qui sont importantes pour tomber dans un sommeil profond. Et aussi, le fait d'être dans une machine qui fait beaucoup de bruit, tout ça, ça éloigne vraiment du naturel, qui est là où on s'endormirait le mieux. Donc, la qualité du sommeil n'est pas au rendez-vous. Les experts qui regardent ça se sont rendus compte que les durées de sommeil des astronautes étaient plus courtes dans l'ISS que sur Terre. Et on peut aussi penser que tout ça est dû à la charge de travail et la pression qu'il peut y avoir sur les astronautes pendant ces missions.
Et alors, il y a des femmes. Il y a des hommes et des femmes astronautes, et je pense qu'il doit y avoir des questions spécifiques féminines à traiter pour les questions de santé.
Oui, il y en a. Alors, il y a des femmes aujourd'hui. Elles sont encore sous-représentées dans les carrières d'astronautes, mais on en a de plus en plus. Alors, elles sont sous-représentées parce que, historiquement, le monde spatial, c'était un monde très masculin, pensé par des hommes, pour des hommes, sûrement de par ses origines militaires. Mais aujourd'hui, il y a une réelle volonté de la part des agences spatiales d'encourager les femmes à devenir, à travailler dans le milieu, à être astronautes. D'ailleurs, la NASA a annoncé que pour le retour sur la Lune, ce serait une femme qui serait la première à remettre le pied sur la Lune. Mais aujourd'hui, on a encore quelques restants de l'homme, l'humain, l'homme, non pas l'humain, l'homme cette fois, qui a développé les systèmes, par exemple, les équipements ne sont pas forcément adaptés aux femmes. Donc on pense, pour les sorties extravéhiculaires, c'est des sorties qui sont longues, qui peuvent durer 8 heures, où l'astronaute va travailler de manière intense, et va devoir, donc ils ont de quoi s'alimenter, enfin de quoi boire, mais il faut pouvoir aussi évacuer les urines, et donc les systèmes qui existent, les collecteurs d'urine par exemple, ont été designés pour... des pénis avec un étui pénien, mais pour les femmes, en fait, apparemment, le système n'est pas du tout confortable ni adapté, et à tel point que les astronautes femmes refusent d'utiliser ce système et préfèrent mettre l'équivalent de couche parce que c'est plus confortable que utiliser le collecteur d'urine.
Et dans la station, alors là, ça se passe comment, la collection des urines? Parce qu'il y a le même problème. Enfin, c'est pas tout à fait pareil que les sorties, mais... Ouais. Il y a un problème aussi, non?
Oui, mais par contre, dans les toilettes, elles ont, ça y est, un système adapté. Par contre, petite anecdote aussi, c'est que jusqu'à assez récemment, les femmes astronautes ne pouvaient pas utiliser les toilettes tout en ayant leur menstruation parce que le système n'avait pas été pensé pour traiter du sang dans les urines. Et du coup... une astronaute femme qui aurait ses règles pourrait pas, en utilisant le système, alors c'était pas le système russe, c'était l'autre, viendrait à briser le système de collection d'urine et de retraitement, surtout de l'urine pour faire de l'eau, si elle avait ses règles. Donc en fait, les astronautes femmes, souvent, elles décident pendant la mission prendre des contraceptifs en continu, de manière à pas avoir les règles. Donc en fait, voilà, on ne gère pas les menstruations, ça n'existe pas.
Et il n'y avait pas une anecdote que tu m'avais racontée, je ne sais plus trop, à ce sujet des menstruations?
Si, une très bonne anecdote justement, pour le premier vol, le vol de la première femme astronaute NASA, les ingénieurs, dans leur infinie sagesse, s'étaient dit, mais une femme, ça peut avoir ses règles. Et donc elle partait sur une mission d'une semaine, et ils avaient prévu pour elle une centaine de tampons.
Bon, voilà. Bah, c'est un début.
On sent la volonté, mais voilà, on sent qu'il y a encore, il y a quand même besoin de femmes ingénieures un petit peu plus. On a parlé des femmes astronautes qui ne sont pas très présentes, mais de plus en plus représentées. De la même manière,
Les femmes ingénieures comme toi. Voilà. Est-ce que vous êtes nombreuses? Enfin, je veux dire, en pourcentage. Femmes, ou est-ce que tu es toute seule, ou est-ce qu'il y en a d'autres?
Alors, je ne saurais pas te dire le pourcentage. C'est vrai que quand tu regardes en général les agences spatiales, les femmes sont un peu sous-représentées au niveau ingénierie.
Ça dépend des pays aussi, entre la NASA, l'ESA.
Malheureusement, je ne saurais pas te répondre. Ah. Mais bon, faut avouer qu'on voit quand même beaucoup de têtes masculines. Typiquement, le regroupement d'experts qui s'appelle ISAG, qui est un groupe de coordination des experts de spatial. J'ai regardé la dernière photo de l'ISAG, et donc c'est en fait le regroupement des experts mondiaux dans le spatial, et il n'y a que des hommes sur la photo.
Ah bon ?
Donc c'est pas très bon signe. Non, il y a encore quelques efforts
bon
à faire.
C'est pas très bon signe. Mais, Laure, merci beaucoup. Je crois qu'on va se revoir la semaine prochaine, parce que là on arrive à la fin de l'émission, et la semaine prochaine on va parler de missions plus spécifiques dont tu t'occupes, missions passées et puis missions futures aussi. Donc c'est assez passionnant. À la semaine prochaine, Laure.
À la semaine prochaine, merci.